Bertrand Saint-Cernin de l'Académie des sciences morales et politiques, philosophe des sciences, ancien recteur d'université, après avoir proposé une série de quatre grandes figures de la philosophie des sciences, émission disponible sur Canal Académie, vous propose maintenant une série de quatre réflexions sur les rapports entre l'homme et la nature. Voici la deuxième de ces émissions, intitulée « Causalité et hasard ». La première offrait une réflexion sur nature et artifice.
Causalité et hasard. En étudiant les rapports entre nature et artifice, nous avons vu apparaître deux usages de la notion de causalité. L'un touche l'action de l'homme sur la nature, les artifices, l'autre les relations entre les choses, la nature. Cette distinction se double d'une interrogation. Les relations causales atteignent-elles la singularité des événements ou mettent-elles seulement en évidence des rapports généraux entre les choses? La question est cruciale. En effet, remarque Leibniz, il n'y a pas deux êtres identiques. Même les feuilles des arbres diffèrent. Dans ces conditions, il faut savoir si la causalité reconstitue les processus singuliers ou si elle ne porte que sur des faits généraux. Dans le premier cas, on risque de pouvoir tout au plus hasarder la description d'événements non répétables. Dans le second, une science des relations causales est possible, mais elle manquera la singularité des choses. Or, dit Aristote, il n'y a de science que du général. Dès lors, on est placé devant l'alternative suivante, ou bien les événements sont irréductiblement singuliers, et dans ce cas, il n'y a pas de science, ou bien ils ont assez de traits communs pour qu'on les regroupe en famille, et une approche causale de la réalité pourra devenir scientifique. Seule l'expérience nous apprend si, dans un ordre de réalité, on peut former des familles de faits ou non. C'est par l'histoire des sciences que nous découvrons les domaines où il y a des faits répétables. Nous nous référons à la science moderne qui se constitue au début du XVIIe siècle. Elle incorpore les acquis anciens, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie géométrique, la statique. Elle les enrichit et les transforme. Quels sont, dans cette science nouvelle, les faits répétables qui se prêtent à une analyse causale? Au cours du temps, ces faits se multiplient en mécanique, en chimie, puis au XIXe siècle en biologie et en sociologie. Les classifications des sciences du XIXe siècle ordonnent les réalités qui entrent successivement dans le champ des sciences. En même temps que s'accomplit ce travail d'organisation, deux interprétations de la rationalité se font jour. Pour les uns, je cite Joseph Fourier, « les causes primordiales ne nous sont point connues, mais elles sont assujetties à des lois simples et constantes que l'on peut découvrir par l'observation. » Ceci figure dans le discours préliminaire de la théorie analytique de la chaleur publié en 1822. Pour les autres, l'idéal de la science est de pénétrer les causes des phénomènes. On appelle positivisme le premier courant rationaliste et réalisme le second. Il n'est pas simple de discerner si l'on peut adopter ou non une approche causale de la réalité. Il faut attendre, pour y voir clair, la révolution chimique qu'initie la synthèse de l'urée par Wöhler en 1828. Cet événement fait apparaître, selon les mots de Marcellin Berthelot, que la chimie crée son objet. En outre, l'on dispose à partir de là d'un critère empirique pour juger si une science met au jour ou non des relations causales. Si, en effet, on peut reproduire par synthèse des substances naturelles et introduire dans la nature des substances qui ne s'y trouvaient pas, on dira qu'on maîtrise le processus causal d'engendrement de ces substances. La notion de causalité ainsi mise au jour réunit les deux aspects distingués au début, 1. L'action de l'homme sur la nature, 2. Les rapports entre les choses. Du point de vue formel, la causalité ainsi définie présente les caractères suivants. 1. La cause précède l'effet. 2. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a donc des situations suffisamment semblables pour qu'on puisse reproduire expérimentalement à l'identique des conditions données. 3. On laisse de côté les cas où la répétition des expériences est irréalisable. La pensée antique était confrontée, comme nous le sommes encore, aux événements fortuits. Elle se demandait comment concilier leur existence avec une approche rationnelle de la réalité. Définir le hasard, déterminer le rôle qu'il joue dans l'univers, discerner s'il affecte certains domaines plus que d'autres, fut pour elle une préoccupation majeure. En effet, dit Platon dans le Timée 34c, « Nous qui sommes faits pour une grande part d'éléments fortuits, il est inévitable que nous nous exprimions au hasard. » Or, c'est seulement au milieu du XVIIe siècle que débute effectivement la domestication mathématique du hasard grâce notamment aux travaux de Fermat et de Pascal. Cournot s'étonne qu'il ait fallu attendre l'époque moderne pour que naisse ce que Pascal appelle la géométrie du hasard, car du point de vue mathématique, ce nouveau calcul est moins complexe que bien des parties des mathématiques grecques. Les règles formelles du calcul des probabilités, une fois fixées, restent à résoudre le problème métaphysique suivant. L'usage du calcul des probabilités est-il seulement lié aux limites de notre information sur la réalité et donc à notre ignorance, ou bien traduit-il l'existence d'une contingence dans la nature? La place penche pour la première éventualité, Cournot pour la seconde. Cette question n'a pas d'incidence sur la forme mathématique de la théorie, puisque l'axiomatique du calcul des probabilités reste la même. En revanche, la signification du calcul des probabilités n'est pas la même selon qu'on attribue le hasard à la finitude de l'esprit humain ou à la contingence de la nature. Dans ce qui suit, nous prenons le parti de Cournot. Nous admettons que dans la nature, tout ne soit pas déterminé et nous nous demandons, peut-on faire une étude causale des processus naturels s'il entre dans leur constitution des éléments fortuits? Cournot répond par l'affirmative. Le hasard à ses yeux résulte de la rencontre de deux ou de plus de deux séries causales jusque-là indépendantes, séries de faits relevant de sciences qui peuvent être déterministes. En confluant, ces séries causales produisent un événement imprévisible ou fortuit. Un tel hasard n'existe que dans un univers où des régions du réel, après être restées longtemps indépendantes, se rencontrent. Cette rencontre produit des événements imprévisibles, dotés d'une hérédité multiple. Cournot prend des exemples dans le monde physico-chimique, mais c'est dans l'ordre vivant et dans l'ordre humain que le fortuit occupe, selon lui, la place la plus importante. Nous considérerons trois types de situations. 1. Celle d'où le fortuit peut être exclu dans une certaine mesure. 2. Celle où la rencontre de séries causales indépendantes crée un imprévisible que l'on peut soumettre au calcul des probabilités. 3. Celle, enfin, où la singularité irréductible des événements fortuits rend impossible une approche probabiliste de la réalité. Examinons le premier cas. La mécanique classique s'édifie en prenant pour base la géométrie, la science des nombres et l'astronomie. Elle postule que les mouvements des corps célestes, et plus généralement tous les mouvements, sont soumis à des lois mathématiques restituables ou par la géométrie ou par le calcul différentiel. C'est seulement à partir des années 1860 que dans l'impossibilité de reconstituer les trajectoires des atomes d'un gaz, Ludwig Boltzmann applique à l'étude de leur mouvement le calcul des probabilités, sans supposer pour autant que les trajectoires des molécules ont un caractère aléatoire. Sa méthodologie est probabiliste et l'ontologie sous-jacente déterministe. En 1896, Poincaré, dans ses méthodes nouvelles de la mécanique céleste, établit que lorsque les mouvements de trois corps sont régis par les lois de la gravitation, le calcul différentiel ne parvient pas à restituer exactement leur trajectoire. Il montre aussi que de très petites différences dans la situation de deux systèmes semblables à un moment donné peuvent engendrer de grandes différences dans leur évolution respective. C'est l'origine de la théorie du chaos déterministe. On voit ainsi qu'il est difficile de savoir si l'on se trouve dans un cas où la situation initiale est suffisamment connue pour que l'évolution du système soit prévisible. Il ne suffit pas, en effet, de connaître les lois régissant le système, il faut aussi disposer d'informations précises sur son état à un moment donné. De plus, observez déjà Cournot, là où la prédiction est possible, la rétrodiction ne l'est pas. En effet, même quand la connaissance de l'état d'un système à un moment donné et des lois qui le régissent permet de prédire son évolution future, il reste impossible, à partir de ces données, de reconstituer les états antérieurs du système. Celui-ci, en effet, peut avoir été modifié par des événements qui n'ont pas laissé de traces. Cournot en conclut que malgré les apparences, la science est plus à l'aise pour prédire l'avenir que pour reconstituer le passé. C'est seulement au début du XXe siècle que l'on commence à se demander véritablement en physique si les phénomènes élémentaires recèlent de la contingence ou non. Pour paraphraser Einstein, Dieu joue-t-il au dé ou non ? Cournot, dans Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme, publié en 1875, défend la thèse que le hasard n'est pas le corrélat de la seule ignorance, mais le caractère objectif de certains processus naturels. Il déclare aussi que cet état de choses n'empêche nullement de mettre en évidence, dans bien des domaines, des relations causales régulières. Examinons donc dans un deuxième temps les rapports du hasard avec les causes régulières. Pour comprendre pourquoi la combinaison du hasard et de la causalité ne ruine pas l'approche scientifique du réel, il faut dire un mot de l'histoire du calcul des probabilités. Au milieu du XVIIe siècle, ce type de calcul apparaît dans les jeux de hasard. en 1713, il fait son entrée dans les jeux à deux joueurs et à somme nulle où intervient l'habileté des joueurs, ce qu'on appellera ensuite les duels. À la fin du XVIIIe siècle, sous l'action de Condorcet, de Borda et de quelques autres mathématiciens, il investit le domaine du vote à la pluralité des voix. Dans le premier tiers du XIXe siècle, il entre dans le domaine des jurys des cours d'assises. Parallèlement, la vaccination, la prévention des épidémies et l'étude des populations en général le rendent de plus en plus utile en médecine et en démographie au cours du XIXe siècle. C'est seulement à partir des années 1860, nous l'avons vu, avec la naissance de la mécanique statistique, que le calcul des probabilités quitte le domaine des sciences sociales et de la biologie pour faire son entrée dans la physique. C'est en biologie, en physiologie et en histoire naturelle que l'on discerne le mieux pourquoi le hasard, bien loin de nuire à la vision scientifique des choses, y contribue. En effet, note Platon dans le Timée, rien de ce qui naît ne saurait naître sans cause. Mais observe-t-il, on ne jette pas le même regard sur les connexions intemporelles inhérentes aux mathématiques et sur les relations causales qui, par essence, sont temporelles. De quoi est donc fait un enchaînement causal? La logique ou les mathématiques le capturent-elles? La réponse est négative. La relation causale est historique, l'ordre entre la cause et l'effet est temporel. Dans ces conditions, on appelle cause un facteur qui modifie le cours de l'histoire d'un processus qui appartient à une famille de cas semblables. La cause est ce qui modifie le cours d'une histoire générique. En 2011, de nombreuses plages bretonnes furent envahies par des algues vertes ou ulves. Les instituts de recherche, l'INRA et l'IFREMER, déclarèrent que la cause de ce phénomène était le déversement dans le sol par les agriculteurs de 340 000 tonnes de nitrate par an. Les avocats de ces derniers répondirent que puisque les algues vertes n'apparaissaient pas partout où ces engrais chimiques étaient épandus, la relation causale entre ceux-ci et les algues vertes n'était pas établie et pouvait même être niée. Cet exemple montre bien les controverses que le recours aux probabilités peut introduire, pourtant l'approche probabiliste est en épidémiologie le seul moyen pour discerner les causes de risque comme le tabac, l'amiante, le sida, etc. Quels sont les obstacles à l'approche probabiliste? Pourquoi est-il difficile de substituer à l'approche déterministe des événements une approche probabiliste? Il faut d'abord surmonter des obstacles subjectifs. Si par exemple, je suis atteint d'un lymphome dont la probabilité qu'il n'ait pas de métastase est de 80%, je reste dans l'ignorance, faute d'autres informations, du groupe auquel j'appartiens. Sera-ce celui des chanceux ou celui des malchanceux? Il en va de même dans bien des situations, à la guerre, dans les sports, ou plus simplement quand je monte en voiture ou que je fume. Dans toutes ces situations, il existe une certaine probabilité pour qu'un événement fâcheux m'atteigne, mais j'ignore si je ferai partie du lot épargné ou non. Dans certaines situations, on dispose de méthodes pour réduire le risque. Il peut aussi se faire qu'il n'y ait pas de mode d'action connu pour le diminuer. Il s'y ajoute le fait que dans l'ordre humain et dans l'ordre vivant, et aussi semble-t-il dans l'ordre physico-chimique, l'effet comporte une variabilité irréductible, si bien qu'aucune relation de cause à effet ne se reproduit de façon strictement identique. L'approche probabiliste convient au cas où la répétition à l'identique des événements n'existe pas, mais où l'on peut construire des histoires génériques portant sur des familles ressemblantes d'événements. La revue Nature a publié le 3 novembre 2011 un texte de Norman Fenton, professeur de management du risque à l'Université de Londres, intitulé « Improve Statistics in Court ». L'auteur part du constat que les juges se montrent réticents à l'usage des probabilités et s'interrogent sur les moyens d'améliorer l'utilisation des statistiques dans la justice pénale. Il faut éviter les erreurs de calcul dans l'emploi des statistiques et mettre au point des méthodes logiques pour que l'accusation et la défense puissent comparer leurs évaluations respectives, enfin et surtout, former les juristes à l'usage des probabilités. En France, au XVIIe siècle, on a eu de grands juristes mathématiciens comme Fermat, et de la fin du XVIIIe siècle au premier tiers du XIXe siècle, les travaux de Condorcet, de Borda, de Laplace, de Poisson et de Cournot témoignent de la vitalité et de l'importance des recherches consacrées au vote, à l'interaction, aux décisions pénales, au jeu. Or, aujourd'hui, alors que la justice est de plus en plus appelée à rendre des jugements sur des affaires où le risque et la probabilité des causes jouent un rôle majeur, il semble que la distance entre le droit et les probabilités se soit creusée, leurs liens doivent donc être renoués. Voyons donc, dans un troisième temps, les rapports de l'ordre humain avec la politique et l'administration. L'histoire humaine oscille entre deux limites. D'un côté, elle avance à coups d'événements singuliers non répétables. De l'autre, elle est pleine de situations qui constituent des solutions stables à des problèmes permanents. Cournot appelle les premières politiques et les seconds administratifs. La politique peut faire l'objet d'une histoire, non d'une science. En revanche, l'administration, parce qu'elle est faite, dit Cournot, de mécanique et de bon sens, peut comporter des éléments traitables scientifiquement. Cournot lui-même a élevé à la science la théorie des jeux non coopératifs et la théorie générale des jeux fait toujours appel à ce qu'on nomme l'équilibre de Cournot-Nash. Où passe donc la frontière entre administration et politique? Cournot observe qu'elle est difficile à tracer parce que, dans la même institution, le système scolaire, par exemple, l'administratif et le politique interfèrent. On peut en donner aisément des exemples. Ainsi, dans l'enseignement public français, en 25 ans, les horaires des cours dans les lycées et les collèges ont augmenté de 30% environ par une série de décisions administratives ponctuelles sans qu'on prenne conscience que ces modifications d'emploi du temps changeaient profondément la nature et le coût de l'enseignement secondaire. Ces mesures administratives, prises au coup par coup, on finit par produire en s'agrégeant un fait politique majeur, la part la plus onéreuse de l'enseignement, à savoir les heures de cours, a été augmentée, et la part la moins onéreuse, les heures d'études, a été diminuée. Et la combinaison de ces deux évolutions n'a pas accru, semble-t-il, la qualité du système éducatif, si l'on en croit les comparaisons internationales. Nous avons donc un système d'enseignement secondaire comparativement coûteux et pas assez productif. On estime que sur une classe d'âge de 800 000 jeunes environ, 160 000 sortent du lycée sans véritable formation. Bien sûr, on s'interroge sur les causes d'un tel échec. Les hypothèses ne manquent pas. Les statistiques fournissent une description correcte de la situation. En revanche, on peine à trouver les remèdes ou à les appliquer. Platon, dans les lois, observe que le législateur et le médecin sont confrontés au même problème. Les réformes et les traitements efficaces sont en général pénibles. Or, citoyens et malades veulent des réformes ou des remèdes indolores, ce qui n'est pas possible. Il s'ensuit que les sociétés humaines sont difficiles à gouverner, surtout par gros temps. Les événements politiques surprennent, alors que, après coup, on se dit qu'ils se préparaient de loin. Tandis qu'en science, comme le note Cournot, la prévision est plus facile que la reconstitution du passé. En politique, c'est l'inverse qui se passe. La prévision est impraticable, alors que la reconstruction de ce qui a eu lieu semble réussir. Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, rend ce caractère imprévisible de la politique en confrontant les déclarations des responsables militaires et politiques au cours des événements. D'un côté, plus de 30 discours, de l'autre, un récit dissonant par rapport aux annonces. Le livre 6 de la guerre du Péloponnèse fournit un exemple extraordinaire. Nicias, commandant en chef de l'armée d'Athènes et de ses alliés, est hostile à un débarquement en Sicile. Alcibiade, au contraire, y pousse les Athéniens. Nicias analyse devant ses compatriotes tous les risques de l'entreprise. Il croit les convaincre, mais c'est l'inverse qui se produit. L'autorité et la subtilité de Nicias le desservent, sa prudence et son intelligence émerveillent les Athéniens qui se voient déjà vainqueurs. Le désastre de Sicile scelle la fin de la grandeur d'Athènes. Après coup, on peut reconstituer le fil des événements, mais sur le moment, quand il faut décider, l'ordre politique comporte une imprévisibilité irréductible. Platon, à la fin des lois, dit qu'il faudrait au législateur une connaissance parfaite, c'est-à-dire une fusion réussie de l'intelligence et de la perception, mais il laisse aussi entendre que n'atteigne un tel état que, dit-il, les dieux ou les amis des dieux, c'est-à-dire, ajoute-t-il, une espèce rare. Bracu genos. En conclusion, il y a une énigme de la causalité. Dans son séminaire au Collège de France en décembre 2004, Anne Fagot-Largeau concluait un exposé intitulé « Chemin causal, chaîne causale » en évoquant la difficulté fondamentale que soulève l'analyse causale d'un processus. Je cite « Si vous contractez une maladie infectieuse comme le sida, le virus passe en vous. Le processus causal est donc bien matérialisé par un être qui passe de l'un à l'autre. Mais y a-t-il toujours quelque chose qui passe ? Prenons l'exemple du béribéri. Quelle est la cause du béribéri ? C'est une carence en vitamines. Il n'y a là rien qui passe. Il y a justement, au contraire, quelque chose qui n'est pas passé. Le béribéri s'installe parce qu'il manque quelque chose dans la nourriture quotidienne de cet organisme. L'analyse causale tend donc à reconstituer la causalité d'un processus temporel, mais y parvient-elle ? N'isole-t-elle pas plutôt des événements séparés, qualifiés de cause et d'effet, parce que la continuité du processus lui échappe ? Pour rétablir la continuité, dit Anne Fagot-Largeau, nous n'avons à la limite que les mots, la narration de l'histoire, la continuité réelle n'est pas analytiquement restituable dans la généralité des cas. » Fin de citation. Cette conclusion remet-elle en question le pari du réalisme à La Cournau? Je ne le pense pas. Il est clair que dans bien des cas, nous ne parvenons pas à reconstituer toutes les étapes d'un cheminement causal parce que l'observation et l'expérimentation même approfondie restent discontinues. La nature continue d'opérer quand nous ne l'observons pas et quand nous agissons, nous ne nous observons pas non plus. Cela explique peut-être une singularité de la littérature anglaise, alors que la Grande-Bretagne est connue pour ses hommes d'action. Si l'on met à part Shakespeare, on ne trouve pas dans les lettres anglaises beaucoup de peintres de l'action. En France, au XVIIe siècle, ce qu'on appelle les grandes actions n'ont pas été décrites par ceux qui les ont accomplies et l'on recommandait encore, 3 siècles plus tard, aux responsables administratifs de ne pas expliquer leurs décisions, non parce que les motifs devaient en être dissimulés, mais parce que les bonnes décisions ne procèdent pas entièrement de la conscience réfléchie. Elles comportent une part d'ombre. Il faut traquer les causes, clarifier autant que faire se peut les processus naturels et l'action de l'homme sur la nature, tout en sachant que cette quête risque de ne pas amener à une entière transparence les cheminements de la nature et de l'action.